أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous abordons aujourd'hui le quatrième moment, ce quatrième cours sur les questions contemporaines. Vous le savez, les trois premiers cours, comme celui-ci, sont liés à la notion de la critique au sens où il s'agit de faire un examen sur un fait ou sur une situation en y apportant une appréciation. Ce n'est pas la critique au sens négatif, c'est la critique au sens de l'étude, de l'examen, ce que Kant appelait un libre et public examen d'un fait ou d'une situation. Et donc, jusqu'à ce jour, ce que nous avons vu lors du premier cours, c'était la critique de la spiritualité. Puis ensuite, nous nous sommes intéressés à la critique de l'arabe, du musulman. Enfin, lors du dernier cours, à la critique de la démocratie. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la critique de l'intégration, en disant un mot sur le communautarisme également tout à l'heure. Donc, critique dans le sens d'examen critique, comme on dit, avoir un esprit critique, c'est-à-dire juger des choses dans une appréciation de jugement positive ou négative. Alors, ce qu'on a appelé intégration, on ne va encore pas, parce que nous n'avons qu'une demi-heure, nous n'avons pas le temps d'aller loin dans l'histoire du concept d'intégration. Ce qu'on a entendu, effectivement, alors il y a plusieurs théories, celles qui viennent, plusieurs usages d'ailleurs du terme intégration, celles qui ont été le fait des penseurs anglo-saxons, et puis plus spécifiquement des penseurs francophones. Donc on a plusieurs définitions de la notion d'intégration. Ce qui était surtout le point commun de tout cela, n'entrons pas dans les détails, c'est l'idée qu'il y a intégration dans d'une communauté ou d'individus dans une communauté nationale ou dans un univers. Ce qui a été majoritairement le cas à partir de la Constitution de l'Europe et même aux États-Unis, c'est l'intégration d'une communauté, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit religieuse, dans un cadre de l'État-nation. La nation étant ce qui détermine un groupe au niveau de sa culture, de ses valeurs, de son histoire. Et puis l'État, c'est la structuration des dimensions de la gestion du pouvoir ou des registres de l'expression de ce pouvoir dans la société. Bon, ici on a un plan théorique, il faut le connaître, et l'intégration, c'est effectivement s'intégrer dans une histoire, s'intégrer dans une culture, s'intégrer dans, comme concept, c'est le concept d'intégration et la revendication de valeurs, en fait, qui sont les valeurs de la collectivité en question.
Ou que des individus.
Donc ce que nous avons ici, c'est un cadre national, et s'y intégrer. Il s'y intégrait par l'acceptation du cadre de la Constitution, du cadre légal. Il s'y intégrait parce qu'il tenait compte dans leur vie de la culture dominante. Il s'y intégrait parce qu'ils comprenaient qu'ils étaient et qu'ils entraient dans une histoire particulière, une psychologie particulière. Mais en même temps, le versant de cela, c'est-à-dire l'autre élément de cette le contre-coup de cela ou d'un point de vue positif, c'était que la société dominante ou la société majoritaire, en intégrant ces individus ou ces groupes, leur reconnaissait le droit de rester ce qu'ils voulaient être, reconnaissait leur culture, reconnaissait leur tradition, reconnaissait leur religion également. Donc il y a, si vous voulez, un rapport qui était reconnaissance par ceux qui s'intégraient du cadre légal et du caractère majoritaire, de la culture majoritaire, mais d'un autre point de vue également, de la part de ceux qui étaient déjà la société, qui avaient déjà ce cadre constitutionnel, la reconnaissance de des valeurs et de l'identité de ceux qui venaient. Donc, reconnaissance et respect mutuel de la culture, respect mutuel des cadres légaux, des références, des valeurs, et également respect des espoirs des uns et des autres. C'est-à-dire que quand des gens qui étaient des immigrants venaient, ils avaient un certain nombre d'espoirs, on leur reconnaissait, tant qu'ils respectaient la loi, on leur reconnaissait leur culture, leurs valeurs, leurs espoirs. Donc il y avait, si vous voulez, dans la notion d'intégration, jusqu'à un certain point, quelque chose d'extrêmement progressiste, qui pouvait l'être, parce que parfois, derrière intégration, il y avait bien l'idée de laminage, d'assimilation, c'est-à-dire vous intégrer, ça voulait dire ne soyez plus ce que vous êtes et devenez ce que nous sommes. Ça existait cela dans l'histoire, même de la théorie ou de l'élaboration théorique sur la question de l'intégration. Mais toujours est-il que, au sens le plus normatif, au sens le plus noble, l'intégration, c'était l'accès d'une société à la réalité de son pluralisme. De son pluralisme géré, c'est-à-dire la pluralité des cultures, la pluralité des origines, la pluralité des religions, la pluralité également des langues. Donc c'était la gestion du pluralisme par l'intégration des minorités au nom d'une constitution unique, au nom d'un cadre reconnu unique. Bien. Donc on a ici quelque chose de très important qu'il faut comprendre comme une étape de la réflexion parce que nos sociétés sont devenues de plus en plus hybrides, de plus en plus mixtes, de plus en plus plurielles en fait. Et que le principe d'intégration devait permettre justement la structuration, l'organisation, la gestion de ce pluralisme. Bien. Donc, il y avait dans un premier temps l'idée qu'il y avait un cadre légal qu'il fallait respecter. Ce cadre légal, il pouvait avoir été constitué avant l'arrivée des nouveaux immigrants. Encore une fois, ce pouvait être des travailleurs, parce qu'on a eu des... Encore une fois, aujourd'hui, quand on parle d'intégration, d'immigration, on pense souvent, en particulier en France, aux Nord-Africains, aux Algériens ou aux Africains. On oublie qu'auparavant il y avait eu des Polonais, qu'il y avait eu des Belges, qu'il y avait eu des Italiens, qu'il y avait eu des Espagnols, des Portugais, des Turcs en l'occurrence également. Et même aux États-Unis, aujourd'hui, quand on parle de migration et d'immigrants, on ne pense pas simplement à des Nord-Africains, on pense à ceux qu'on appelle les Latinos, c'est-à-dire tous ceux qui viennent d'Amérique du Sud et qui s'intègrent à la société. Donc ce n'est pas simplement un phénomène qui serait lié aux musulmans qui migrent, c'est un phénomène international qui touche toutes les qui a touché et qui touche toutes les sociétés. D'ailleurs, parmi ceux qui ont le plus migré, il y a les Européens eux-mêmes. Et que la différence aujourd'hui entre ce qu'on appelle les autochtones et les immigrants, c'est que les autochtones sont des migrants de plus longue date, c'est tout. C'est qu'ils ont une plus longue présence après leur migration sur le terrain. Bien, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre qu'il y avait un cadre légal et que ce cadre légal, c'est ce que l'on dit devoir respecter. Alors, par exemple, si on prend le cas de la France, il y a par rapport à la question religieuse, à la migration des musulmans, ce que l'on dit, c'est, eh bien, ce qui fait office de cadre qu'il faut respecter, c'est la loi de 1905. Quand on est aux États-Unis, c'est un cadre légal, une constitution à laquelle on se réfère. On dit, ben voilà les articles qui sont déterminants. Quand on est en Grande-Bretagne, on sait qu'il y a une loi qui gère les relations aux races et aux origines, pas à la religion, et on entre dans ce cadre-là. Alors évidemment, avec des migrations massives, il se peut que un certain nombre de groupes minoritaires mais qui s'est installé puissent dire bah, peut-être que ça il faudrait qu'on en discute parce que ça a été fait avant qu'on vienne et il faudrait qu'on discute. Et parfois il n'a pas besoin de discuter parce que ce qui avait été décidé dans un cadre d'un pluralisme avant leur venue continue à être efficient avec leur présence. C'est le cas par exemple dans beaucoup de pays et par exemple aux États-Unis c'est le cas. Pendant des années en France, certains ont pensé que la loi de 1905 ne leur convenait pas, sans doute parce qu'ils l'avaient peu étudiée, sans doute parce que ils ne savaient pas quels en étaient les tenants et les aboutissants. Et aujourd'hui, après l'étude de cette loi, on peut dire que cette loi demande, exige de la part de l'État et de l'autorité politique, qu'elle soit au niveau national et au niveau local, le respect absolu des spécificités de la liberté de conscience et de culte de la tradition musulmane, beaucoup plus que ce que certains laïcistes ou laïcars ont voulu dire, qui ont confondu le cadre légal de la laïcité avec leur idéologie laïcisante qui a confondu parfois la laïcité avec de l'anti-religion. Bien, ça aussi, il faut qu'on fasse la différence entre les promoteurs d'une laïcité sur le plan légal et les défenseurs d'une laïcité sur le plan idéologique qui va parfois jusqu'à l'anti-religion et qui ont une lecture totalement réductrice de la loi et qui, eux, appellent à plus de laïcité contre le religieux alors que ce qu'il faudrait, c'est une laïcité pour intégrer le fait religieux hors de toute zone de conflit mais dans la coexistence non pas simplement pacifique, mais positive et interactive entre les citoyens des différentes confessions. Bien, jusque-là, l'intégration, c'est un concept qui se présentait comme un concept progressiste qui ouvrait le champ du possible du pluralisme. Le problème, c'est le glissement. Le glissement chez certains qui ont confondu l'intégration qu'ils exigent de ceux qui viennent, des migrants, avec le côté d'assimilation, le côté d'absolue invisibilité. Aujourd'hui, l'islam fait peur et ce que certains attendent des musulmans, c'est qu'ils deviennent absolument invisibles. Ça fera moins peur. Donc, on a une pression terrible sur le plan médiatique, on a une pression terrible sur le plan de la politique internationale. La lutte contre le terrorisme fait que tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais certains musulmans pratiquants sont potentiellement terroristes. Et tout est dans le potentiel. Le potentiel, c'est ce qui légitime vos peurs. C'est-à-dire, je sais que tu n'es pas violent, mais certains des gens de ta religion le sont, donc tu es potentiellement violent. Le potentiellement violent, c'est ce qui légitime le doute. Et quand une société vit dans le doute, elle vit dans la crispation et dans la peur, et elle légitime l'islamophobie et la crainte. Je vous donne un exemple où on questionne par exemple les musulmans. Mohamed Ali, le boxeur américain, il avait été interpellé une fois par un journaliste. Regardez comment la crainte est présente. Il dit, mais vous, monsieur Mohamed Ali, le sportif du siècle aux États-Unis, il dit, mais quel effet ça fait d'être de la même religion que Ben Laden? Est-ce que vous sentez quelque chose de particulier du fait que vous êtes de la même religion, que vous partagez la même religion que Ben Laden? Sur quoi Mohamed Ali lui répond du tac au tac et directement, et vous, quel effet ça vous fait de partager celle d'Hitler? Et la discussion se renvoie aux propres représentations. Si effectivement vous voyez dans ce boxeur-là l'image potentielle d'une relation avec Ben Laden, il partage la même, eh bien l'histoire nous montre que personne n'a à accuser personne d'avoir dans ses rangs des gens qui ne sont pas à l'image du respect des principes humains. Donc, de ce point de vue-là, regardez la réponse. Elle est une réponse qui renvoie quelqu'un à ses propres peurs, à ses propres manquements, à ses propres oublis. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une situation où le terme de l'intégration est surdéterminé par une crainte générale, par une espèce de machine à faire peur. Et il y a deux phénomènes. On est en train de vivre deux choses. Un phénomène qui remet d'ailleurs, on en parlait la dernière fois, la question de la démocratie, ça remet en cause les réalités de la démocratie, c'est-à-dire qu'on fait tellement peur aux gens sur la potentialité de l'acte violent que finalement on leur fait comprendre il y a potentiellement de la violence, donc vous êtes potentiellement dans l'insécurité et nous allons concrètement vous sécuriser et on légitime par là des politiques sécuritaires antidémocratiques. Antidémocratiques, c'est-à-dire qu'elles ne respectent pas l'égalité citoyenne et qu'elles ne respectent même pas les droits civils des citoyens. C'est-à-dire le fait d'être respecté aux frontières, le fait d'être respecté dans sa vie privée, le fait de ne pas être surveillé dans tout ce que l'on fait. Aujourd'hui, au nom d'une politique sécuritaire, eh bien, on surveille les gens pour leur bien, parce qu'on leur a fait peur par nos propres moyens. C'est-à-dire, on leur fait peur, et après on les surveille en leur disant, vous voyez, vous avez peur, et bien on va vous sécuriser. Premier élément dans lequel le débat sur l'intégration se fait. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a tellement peur de ces musulmans, le meilleur moyen d'avoir une intégration réussie, c'est qu'ils soient invisibles, c'est-à-dire qu'il n'y ait rien qui dépasse. Il faut qu'ils deviennent tellement nivelés, tellement semblables à nous, que l'intégration en est venue à signifier pour un certain nombre de nos interlocuteurs totale assimilation, totale disparition, invisibilité absolue. Parce que la visibilité, elle questionne et qu'on n'a pas envie de se questionner. Et que quand on commence à se questionner, si la peur que nous avons qui vient de tout ce battage médiatique, de cette lutte contre le terrorisme, vous pousse encore une fois à penser que vous êtes dans l'insécurité, que quelqu'un est potentiellement un terroriste, on ne s'en sortira pas. Alors mieux vaut être invisible pour ne pas être potentiellement soupçonné d'être potentiellement un promoteur de la violence. Donc nous sommes dans un débat qui est biaisé, qui est faussé à cause du cadre de l'atmosphère. Cela étant, il faut le regarder en face, ce débat, et venir avec des réponses qui sont extrêmement claires. Et aujourd'hui, le concept d'intégration, s'il a été progressiste pendant des années, est un concept dépassé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans les sociétés européennes comme dans les sociétés américaines, les citoyens de confession musulmane sont déjà intégrés. Ils ont déjà acquis la nationalité, ils ont déjà compris le sens de la culture. Ils vont même plus loin, ils ont, pour beaucoup d'entre eux, leaders associatifs, compris comment était la loi. C'est tellement vrai d'ailleurs qu'aujourd'hui, regardons l'exemple de la France, maintenant on se plaint qu'ils connaissent trop la loi. C'est-à-dire qu'ils savent trop. Alors, comme on ne leur fait pas confiance, vous savez, quand quelqu'un a appris la loi et que vous lui faites confiance, vous relevez chez lui le fait qu'il a étudié. Mais quand quelqu'un, vous n'avez pas confiance en quelqu'un et que vous voyez qu'il a compris la loi, vous dites « Ah, il utilise la loi pour en jouer ». Quand vous ne faites pas confiance à votre citoyen, vous pensez que ses connaissances sont des connaissances qu'il va utiliser contre vous. Mais si votre citoyen, votre concitoyen connaît la loi et que vous êtes bienveillant à son égard, eh bien vous imaginez, vous comprenez bien sûr que sa connaissance de la loi est un plus pour vous comme pour lui. Mieux je connais la loi, plus je suis citoyen. Non, aujourd'hui, plus je connais la loi, plus je suis dans un langage des rues margoulin, peut-être magouilleur, peut-être cherchant à passer au travers de la casuistique pour pouvoir défendre mes droits. Et c'est cela qui est en train de se passer aujourd'hui dans beaucoup de pays européens, en France comme ailleurs, nous ne sommes pas au Canada aujourd'hui, on entend ces choses-là, ils apprennent la loi pour mieux la déjouer, non pas comme de meilleurs citoyens, mais pour la déjouer, pour pouvoir jouer avec, pour venir avec un nouveau discours. Tout cela est fondé sur la suspicion, sur ce que je disais tout à l'heure, potentiellement terroriste, ou potentiellement radical, ou potentiellement trop pratiquant, ou potentiellement intégriste, ou potentiellement fondamentaliste. Une image tellement négative que finalement tout acte positif, on va chercher la pensée de derrière, pour parler comme Blaise Pascal. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Eh bien aujourd'hui, ce terme de l'intégration qui était progressiste, dans cette atmosphère-là, devient véritablement un terme piégé, un concept piégé, nous l'avions dit auparavant. Et ici, ce que nous avons à dire, c'est qu'il faut que nous venions avec un certain nombre de critères extrêmement clairs et fermes sur la question. La première des choses, c'est que ce sont les lois, et non pas ce qu'en certains disent de la loi, qui doit faire office, c'est elle qui doit faire office de référence. Qu'est-ce que disent la loi ? Et il faut étudier la loi en demandant à ce que celle-ci soit établie égalitairement. Et que les citoyens qui sont déjà intégrés cessent d'être obsédés par l'intégration, l'intégration, l'intégration. Qui ne cesse de vous parler d'intégration est en train de vous renvoyer l'image que vous n'êtes pas chez vous. Et c'est psychologiquement et c'est politiquement une stratégie. Quand on continue en permanence à vous parler d'intégration, c'est-à-dire vous n'êtes pas chez vous, continuez à être plus moi. Mais quand vous dites, malgré mes différences avec vous, je suis chez moi parmi vous et parmi nous, vous êtes en train de dire à l'autre, vous devez vous décentrer pour savoir que chez vous, ça n'est plus uniquement comme vous avez envie que ce soit, mais comme nous sommes en train de le construire. Certains ont décidé que la France n'allait pas bouger, qu'elle devait rester comme dans les années 1900, que c'est leur France et que toute personne qui vient doit s'intégrer pour être à leur image. Ben, la France a changé, ben, l'Europe a changé, les États-Unis ont changé, tous les pays changent, il n'y a pas d'identité close et fermée. L'histoire change les identités et les identités doivent se re-questionner. Donc une intégration qui serait la promotion d'un nivellement, d'une uniformisation, nous nous y opposons. L'intégration aujourd'hui est un concept qui doit être revu, revisité, et nous avons aujourd'hui des citoyens qui doivent dire, voilà, le cadre légal. La culture majoritaire, la respecter et reconnaître aussi le droit à rester ce que nous sommes à partir du moment où nous respectons le cadre légal et que nous sommes chez nous, c'est notre pays, c'est notre culture, c'est notre histoire désormais et nous allons construire l'histoire de ce pays avec tous ceux qui le constituent. L'intégration n'est plus une réalité, elle est un passé qui nous a fait et aujourd'hui il faut aller de l'avant. En même temps que nous disons cela, nous sommes en train de dire une chose dont il faudra bien que nous prenions la mesure. Les citoyens musulmans en Europe, partout en Europe, de plus en plus dans les pays, alors majoritairement bien sûr en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne, où la présence des musulmans est la plus longue, mais ça commence à être le cas au Danemark, ça commence à être le cas en Europe du Nord, ça commence à être le cas en Espagne, ça commence à être le cas en Italie. Comme c'est déjà le cas depuis un certain nombre d'années aux États-Unis, les musulmans ont dû, par leur nouvelle présence en Occident, revisiter leurs valeurs. Revisiter leurs textes. Et ils sont en train d'accéder à une chose extrêmement intéressante, c'est une pensée universaliste. C'est-à-dire une pensée qui regarde les valeurs de l'islam comme des valeurs universelles avec lesquelles ils peuvent vivre dans les nouvelles sociétés qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'ils ont accès de plus en plus, non pas à l'obsession de la différence, mais à l'affirmation des valeurs communes au nom de leur religion, et leur religion les invite à cela d'ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que le communautarisme n'est pas en train de revenir par ceux dont on est en train de clamer qu'ils le revendiquent. On est en train de dire en permanence, et en particulier en France, mais ça commence à venir également dans certains pays comme la Belgique ou comme l'Italie. Nous avons des zones de communautarisme, c'est-à-dire des musulmanes et des musulmans qui seraient renfermés sur leur communauté. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir partout un discours des musulmans en Europe et aux États-Unis qui prône la possibilité de vivre avec les autres. Mais en face de cela, on est en train de voir des vieux réflexes communautaristes tout à fait étonnants. Qui, aujourd'hui, est en train de développer cela? Eh bien, il y a un discours communautariste qui est un discours de communauté économique. Il y a des gens en France, il y a des gens en Europe, il y a des gens en Belgique, en Italie, qui ont des intérêts économiques, qui se forment une petite communauté de l'élite économique et qui n'ont pas envie de voir leurs intérêts ou leurs bénéfices être mis à mal. C'est vrai, aux États-Unis, une petite communauté d'entrepreneurs ou de notables ou de gens qui vivent dans les quartiers résidentiels, ils développent une nouvelle communauté dont la présence de l'étranger, de l'autre, viendrait mettre à mal leurs prérogatives. Et en particulier, la présence de ces jeunes dans les banlieues, dans les quartiers les plus délicats aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'en vont. Ils quittent ces quartiers et ils forment des petits ghettos résidentiels où entre riches l'on vit, où entre riches l'on se sécurise et on vit en marge de la société. C'est étonnant. On dit que ce sont les jeunes, les Nord-Africains, les Algériens qui sont maintenant français qui forment les nouveaux ghettos, mais en fait, eux, ce sont des marginalités imposées. Et nous avons une nouvelle marginalisation des petits quartiers résidentiels pour gens bien dans leur porte-monnaie, bien dans leur confort. Le communautarisme n'est pas en train de revenir par là où on l'attend. Aujourd'hui, les musulmans sont en train de sortir de l'ornière intellectuelle dans laquelle on essaye de les pousser, de le communautarisme intellectuel. Ils sont en train de faire des liens, d'établir de nouveaux liens avec leurs partenaires. Et c'est de nouveaux communautarismes qui viennent, qui sont totalement différents. Vous avez un autre type de communautarisme, c'est le communautarisme républicain. Faire de la République un club pour personnes bien pensantes et qui demande et qui exige de tous les autres d'être formaté à l'image du républicain. Il faut penser comme vous, il faut être comme vous. C'est un petit club, alors on a eu les souverainistes en France, on a les partis d'extrême droite, c'est un petit club de gens qui ont déterminé les règles de la nation. Si vous n'êtes pas à mon image, vous n'êtes pas des miens. Petite communauté de blancs très blancs et qui demande aux moins blancs de devenir blancs, même plus blancs que blancs, plus blancs qu'eux-mêmes, plus patte blanche que la patte blanche. Donc de ce point de vue-là, on a des réactions identitaires. Et c'est étonnant, ça n'est pas majoritairement de là où on les attend. On les attendrait de ces jeunes, de ce communautarisme des anciens immigrants, des musulmans, des nord-africains. Eux sont plutôt en train de souffrir, hormis dans les sphères où la marginalité économique leur a été imposée. Mais les jeunes des cadres associatifs, ceux des deuxième, troisième générations qui sont aujourd'hui éduqués, ils sortent, ils sont en contact avec le monde de plus en plus. De plus en plus, nous sommes loin encore de l'idéal, mais de plus en plus. Et c'est eux aujourd'hui qui constatent les nouveaux communautarismes, les communautarismes économiques, les communautarismes républicains, la patrie, la nation, ça c'est notre pays, l'homogénéité de la culture. Si vous entrez comme musulman, vous êtes en train de mettre à mal la qualité gréco-romaine, judéo-chrétienne de notre culture. C'est le nouveau club de ceux qui défendent leur histoire singulière, leur exclusivisme de mémoire et qui n'ont pas envie finalement de se poser la question de savoir comment ils vont vivre avec les autres. Ils ont le discours pluraliste et l'engagement exclusiviste. C'est une réalité de ce qu'on voit aussi sur le terrain. Dernier élément, on a effectivement aujourd'hui des replis religieux en face de nous. C'est que l'islam fait peur et que parfois nous établissons avec l'univers chrétien, catholique ou protestant, des relations extrêmement ouvertes et véritablement fondées sur le dialogue, avec énormément de catholiques, énormément de protestants, avec les Juifs sur la question religieuse, qu'on ne confondra pas bien sûr avec la question palestinienne, je vais y revenir. Ces relations existent, mais à côté de ces relations qui sont fondées sur l'universalisme de nos religions, nous constatons, alors c'est vrai dans l'univers musulman, il y a des musulmans qui réagissent de façon fermée. Ça, il ne faut pas le nier, il faut le dire et le revendiquer. Vous avez des gens qui disent, nous ne devons pas avoir de relation avec l'environnement. C'est des groupements littéralistes, ceux qui s'appellent, ou qui ont capitalisé pour eux-mêmes ce que nous contestons, le terme de salafi littéraliste, je les appellerai, et qui, aujourd'hui, disent, nous devons rester entre nous et ne pas avoir de contact. Dans toutes les traditions religieuses, nous avons cela. Et cela, effectivement, ils développent une espèce de communauté fermée, communautariste au point où ils veulent réguler leurs affaires entre eux. Mais il serait faux de mettre en évidence que cette réalité-là, depuis l'émergence d'une présence musulmane de plus en plus importante en Occident, en Europe comme aux États-Unis, que voit-on ? On voit d'anciens intellectuels présentés comme universalistes devenir des intellectuels très communautaristes. C'est vrai par rapport à un certain nombre d'intellectuels chrétiens. Leur peur de l'islam les fait se refermer sur leurs valeurs en disant « l'Europe est un club de pays chrétiens. L'Europe, c'est la culture judéo-chrétienne d'abord et non pas l'islam. » Ils en ont des pertes de mémoire à force d'avoir la volonté de déterminer une exclusivité de leur identité. Ils sont communautaristes de mémoire, communautaristes dans leur identité religieuse. Nous le voyons également avec un certain nombre d'intellectuels de tradition juive qui finissent par tout confondre les réalités sociales en disant et en étant totalement obsédés par les réalités des frictions communautaires. Alors, Dieu sait s'il faut critiquer l'émergence de l'antisémitisme quand il apparaît, la destruction ou le saccage des synagogues, c'est inadmissible, nous le refusons, il faut le critiquer, et là, toutes voies confondues, nous devons porter cette critique-là, mais la critique ne doit pas en sous-main légitimer les dérives d'un certain nombre d'intellectuels qui se présentent comme universalistes, mais qui, en France, comme en Europe, comme aux États-Unis, sont en train de développer une pensée extrêmement pernicieuse. En fait, derrière le discours qu'ils tiennent sur l'islam, de peur, le discours qu'ils tiennent sur l'autre, ils sont en train d'essayer de protéger leur identité, en particulier juive, et en particulier également de confondre le registre de la lutte des Palestiniens contre l'oppression israélienne en antisémitisme caractérisé. Cela, il ne faut pas l'admettre. Nous avons des intellectuels aujourd'hui qui prennent, en France en particulier, qui prennent des positions sur la scène locale comme sur la scène internationale. Si vous décryptez le genre de posture qu'ils ont sur ces questions-là, vous allez vous apercevoir qu'ils sont en train de défendre non pas simplement une appartenance religieuse, mais l'idée que leur identité passe et doit passer par la défense absolue de la politique israélienne. Et cela, les musulmans le voient, et c'est vrai en même temps qu'il y a une crainte de cette présence massive des musulmans qui pourrait mettre à mal la politique nationale sur les questions de politique internationale. C'est vrai, en particulier en France, on le voit aussi en Angleterre, mais vraiment nous sommes au cœur de cette question-là. Donc en fait, le communautarisme ne vient pas simplement de là où on le craint le plus. Les communautaristes au sens premier du terme, aujourd'hui dans les communautés musulmanes d'Europe, sont extrêmement minoritaires. Et ceux qui sont en train de se développer comme les leaders des communautés musulmanes aux États-Unis et en Europe sont des intellectuels plus universalistes que ce que l'on laisse entendre et qui sont prêts à développer des rapports avec autrui. Alors ça nous mène à notre conclusion. Ça nous mène à notre conclusion parce qu'il faut que nous développions aujourd'hui non pas simplement une question sur l'intégration, une question sur les communautaristes, qui soit liée sur des propos théoriques. Aujourd'hui, de plus en plus, les citoyens de confession musulmane connaissent la loi. Ils savent dans quel cadre ils vivent. Ils connaissent et reconnaissent la culture dans laquelle ils sont. Ils sont de culture occidentale, d'ailleurs. Ils sont de culture américaine, ils sont de culture britannique, ils sont de culture suédoise ou de culture française ou allemande. Ils sont de cette culture-là, mais ils sont musulmans. Et ils sont citoyens de ces pays-là. Et donc, de ce point de vue, il doit être clair que leur apprentissage de la loi, c'est l'accès à une citoyenneté effective. Nous connaissons le dicton « Nul n'est censé ignorer la loi ». Pourquoi, quand des citoyens musulmans n'ignorent pas la loi, voudrait-on systématiquement supposer qu'ils la connaissent pour en jouer ou pour la manipuler ? Tout simplement, ce sont des citoyens comme tous les autres et qui exigent leurs droits, et c'est ainsi qu'il faut les entendre. Premier axe de l'engagement, la reconnaissance de la loi, qui est la manifestation d'une intégration déjà dépassée, déjà réussie, déjà, depuis longtemps, un fait de la mémoire et non pas un fait de l'avenir. Deuxième dimension, c'est celle de la critique. Aujourd'hui, des citoyens de confession musulmane qui critiqueraient l'Occident et ses dérives sont considérés comme des traîtres, c'est-à-dire la cinquième roue, le loup dans la bergerie, des musulmans qui ne sont pas tout à fait fiables. Eh bien non. Un musulman de culture occidentale développant un esprit critique a le droit, si ce n'est le devoir, de pouvoir dire aujourd'hui qu'il y a un énorme acquis de la civilisation occidentale, mais qu'il y a également des perversions. Il y a des perversions dans l'ordre d'une démocratie qui serait pour nous et de la collaboration avec des dictatures sur le plan politique, sur le plan culturel, une culture ou un monde de la culture qui est devenu plus de l'industrie que l'expression de l'esthétique et du raffinement, qui cherche plus l'argent que l'art au sens où il embellit la conscience et qu'il embellit l'imaginaire de l'homme. De ce point de vue-là, nous avons à être critiques et il faut que l'on cesse en même temps de soupçonner toute conscience critique occidentale musulmane comme une pensée traîtresse. Au contraire, elle est la dignité de sa culture, elle est la dignité de sa civilisation et en même temps elle est en cohérence avec sa son principe éthique. L'autre dimension qui est extrêmement importante et qui, justement, quand on pose mal l'équation de l'intégration, on en arrive à poser mal la façon d'en sortir, c'est qu'aujourd'hui, pendant longtemps, on a dit aux musulmans « Mais en fait, vous restez entre vous, vous n'avez pas envie d'être en contact avec la société avoisinante. » Et que les musulmans, dans un premier temps, comme n'importe quelle immigration, par la force des choses, se sont mis ensemble. C'était le meilleur moyen de se protéger. Ça a été comme ça pour toutes les migrations. C'est vrai pour la migration européenne aux États-Unis. C'est vrai pour la migration polonaise, belge, italienne, espagnole. La première étape, c'est d'être ensemble, puis ensuite on s'ouvre. Or, aujourd'hui, les musulmans sont en train de s'ouvrir. Et de quoi les accuse-t-on ? Hier, on les accusait de rester entre eux. Aujourd'hui, on les accuse d'entrisme. En d'autres termes, quand vous êtes entre eux, vous, vous nous gênez, mais quand vous commencez à venir parmi nous, vous êtes tellement manipulateur que vous essayez d'entrer. L'entrisme, c'est utiliser les voies du partenariat pour défendre votre exclusivisme. C'est-à-dire, vous venez parmi nous pour défendre les prérogatives de votre communauté, de votre communautarisme. Encore une fois, la preuve ici, c'est que le concept d'intégration est vide de sens s'il n'a pas été lié, bien sûr, déjà dans notre conscience, par le principe de confiance mutuelle. Et ici, il y a un manque flagrant de confiance. Et aujourd'hui, effectivement, les cadres associatifs musulmans, les intellectuels musulmans, partout aux États-Unis et en Europe, sont en train de développer des rapports avec autrui, loin de toute dimension d'entrisme, simplement parce qu'ils deviennent des citoyens, connaissant la culture, connaissant l'environnement, et qu'ils veulent y jouer leur rôle. De la même façon, on a deux questions, et je terminerai là-dessus, qui prouvent bien qu'on est vraiment dans une atmosphère malsaine. C'est toute la question des femmes. Vous le savez, pendant des années, on a dit les femmes qui portent le foulard, elles sont sous la pression du père ou du frère. Et pendant des années, on a pensé pour elles. On a dit, alors il faut les libérer de cette oppression-là. Alors, pendant des années, on était persuadé qu'une femme portait cette tenue vestimentaire par cette voie-là. En particulier en France, encore une fois. Parce qu'aux États-Unis, comme en Angleterre, comme en Belgique, maintenant les choses changent. Mais en Suisse, ou non pas simplement dans le système anglo-saxon, comme aiment à le dire les Français, mais dans les autres pays européens, que ce soit en Suède, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, on n'a pas ce problème-là. En France, on a tenu beaucoup ce discours-là. On a pensé pour les femmes et on a dit ben, « elles portent le foulard uniquement sous la pression du père et du frère ». Or, il s'est trouvé que pendant ces dernières années, des femmes sont apparues sur la scène, leaders associatifs, membres du leadership des musulmanes, des communautés musulmanes, et qu'elles ont dit « ben non, je le porte par ma volonté seule, je n'ai ni père, d'ailleurs je le porte même contre mon père et contre mon frère ». Et le discours qui a été tenu, c'est de dire, hier on disait, vous êtes sous la tutelle de vos pères et frères, et aujourd'hui, qu'elles viennent dire ce discours, on dit, ah mais attention, c'est encore plus grave. Parce qu'une femme qui dit ça est aliénée sans le savoir. En d'autres termes, si vous arrivez, vous, à penser qu'il faut que vous portiez le foulard pour être une bonne musulmane, c'est que vous êtes aliénée toute seule. Donc hier, il y avait le père et le frère, puis dès que le frère et le père a disparu, vous êtes dans une situation encore plus dangereuse parce que vous êtes auto-aliénée. Dans une discussion avec la psychanalyste Rudinesco, elle me tenait ce discours-là, absolument sidérant, de décider pour une femme qui a parfois bac plus 10, qui est parfois éduquée, qui est parfois même chef d'entreprise, de dire « vous êtes aliénée sans le savoir » et qu'il a décidé « moi qui sais mieux que vous, qui vous êtes pour vous-même ». Donc en l'occurrence ici, un manque de confiance absolue, un manque de considération, de respect même. De quel droit peut-on se permettre de penser qu'une femme qui décide pour elle-même cela est aliénée selon nos critères de liberté ? Dernier élément, l'engagement également sur le plan de la sphène politique, qui pendant des années on ne voyait pas de musulmans ou de citoyens dans la sphène politique et on s'en plaignait. Et maintenant qu'ils apparaissent et qu'ils s'engagent sur la scène politique, encore une fois, ils deviennent dangereux parce qu'ils connaissent trop bien les règles de la République. En d'autres termes, nous avons pendant longtemps, avant l'intégration, été considérés comme pas assez citoyens, trop loin de la citoyenneté. Et maintenant, pour beaucoup, il y a trop de citoyenneté parce que la confiance est tellement absente qu'on finit par penser qu'un citoyen engagé de confession musulmane va soit jouer avec la loi, soit manipuler, soit faire de l'entrisme. Il faut que nous sortions de cette logique-là. L'intégration est un concept dépassé. La réalité sociale aujourd'hui de l'Europe et des États-Unis voit l'émergence de femmes et d'hommes totalement membres de leur société. Ils en portent l'histoire, ils en portent la culture, ils ont des valeurs, ils ont une éthique avec laquelle ils essayent de vivre. Ils font partie de la dynamique sociale, ils font partie du paysage politique, ils portent cette culture-là, ils peuvent être critiques. Et ce qu'il faut absolument établir aujourd'hui, ce n'est pas un discours théorique sur l'intégration de demain, mais une action pratique et concrète sur les confiances mutuelles à développer sur le plan local. C'est de cela dont il s'agit aujourd'hui. Tout autre discours est un discours vain et on pourra se rejeter la faute du communautarisme. Mais on ferait bien dans nos sociétés de cesser de promouvoir l'enfermement des riches entre eux, loin de la société, l'enfermement des groupements religieux entre eux, loin de la collaboration, l'enfermement de la même façon de ces groupements aujourd'hui qui sont liés à des intérêts qui vont à l'encontre de l'intérêt public. C'est à nous aussi de développer cela dans des partenariats, mais un partenariat n'est rien si la confiance qui le dynamise n'est pas partagée par l'ensemble des membres de la société, de quelque confession qu'ils soient, puisque désormais la société européenne comme la société américaine sont des sociétés qui sont des sociétés plurielles, pluralistes, à qui il ne faut pas continuer pendant des années à parler d'intégration, puisque l'intégration
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com.